Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du Centre pour l'Action Non-Violente, de l'association Sortir de la Violence et de l'association pour la Communication Non-Violente. Il existe aussi grâce à vous qui écoutez, qui partagez et grâce aux généreux donateurs et donatrices qui aident à la fabrique de cette émission. Merci beaucoup. Sachez que j'anime désormais des ateliers créatifs de sensibilisation à la force de la non-violence à destination de tout public à partir de 14 ans. Toutes les informations sont sur mon site force-nonviolence.fr. Parlez-en autour de vous. Belle écoute.
C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence.
Ma lutte va être à travers la parole.
Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
I have a dream.
Ne jamais obéir.
Urgence climatique, justice sociale.
D'abord dénoncer le système.
Mobilisation citoyenne.
On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez.
Désobéissance civile de masse.
Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur.
C'est une question de vie ou de mort.
Il nous faut des armes d'instruction massive.
C'est une lutte.
Donc l'empathie est le levain de la non-violence.
C'est ça notre espoir.
Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
I still have a dream.
AIMSA. Le 15 septembre 2023 avait lieu la Journée internationale pour la liberté d'instruction. Une liberté souvent remise en cause, voire réprimée au cours de l'histoire passée et récente. Rappelons qu'en Europe, c'est l'Allemagne la première qui, en 1938, en plein régime nazi, interdit l'école à la maison. Une loi qui n'a jamais été abrogée depuis. Le ministre Blanquer a même invoqué l'exemple allemand pour justifier le recul des libertés en France. Car jusqu'en 2021, nous pouvions encore instruire nos enfants chez nous sur simple déclaration. Ce droit est désormais soumis à une demande d'autorisation. Si vous n'avez pas encore écouté le reportage que j'ai fait sur l'association Enfance Libre, dont les membres ont décidé de désobéir à cette loi dite contre le séparatisme, je vous invite chaudement à vous reporter à l'épisode 34 du podcast. Place maintenant au témoignage de deux couples, Philippe et Emmanuel, Jérôme et Sarah, qui retracent leur parcours de parents déterminés à respecter leurs enfants envers et contre toute autorité. Des militants qui se battent pour que les libertés fondamentales soient préservées et la voix des jeunes entendue.
Alors je m'appelle Philippe Lacot, j'ai 50 ans. Si je dois me présenter rapidement, j'ai été éducateur et j'ai eu des responsabilités dans le domaine de l'éducation spécialisée à des postes de responsable de directeur. Notre premier enfant, Soren, qui a 9 ans aujourd'hui, a eu l'expérimentation d'une crèche auprès de laquelle ça ne se passait pas forcément bien. Je dirais que c'est Emmanuel qui m'a mis la puce à l'oreille avec l'idée de l'hypersensibilité de l'enfant. Donc du coup, on a choisi ensemble de ne pas mettre Soren à l'école et de rentrer dans le cadre de l'IEF pour Soren au tout début.
Je suis Emmanuel Chaplot. Sur Paris, j'étais longtemps professeur de danse. Effectivement, y a un fil qui a été tiré avec l'arrivée de la maternité, en fait, qui s'est déroulé au fur et à mesure. Mais je voyais effectivement que mon premier enfant avait des besoins particuliers. C'est là qu'on a découvert la possibilité de l'instruction en famille. Donc Soren et Ezra ont 9 ans et 5 ans, ils sont différents. Malgré tout, Ezra qui a été à un moment dans ce désir de découvrir l'école, et on n'y est pas, absolument pas fermé, son consentement est important. On avait pris contact avec la mairie et l'école pour voir si ça pouvait se faire. Et rapidement, il nous a dit « Non, mais en fait, je veux juste peut-être voir un peu plus souvent mes copains et apprendre à lire. » Mais je préfère le faire à la maison. Voilà, du coup, on se rend compte que même avec deux enfants très différents, finalement, cette approche-là, les deux s'y retrouvent très, très bien. Cette nouvelle loi, elle nous a inquiétés sur le choix, en fait, que ça laisse. Justement, avec un enfant qui commence à demander à essayer l'école, on s'est dit, mais avec cette loi, en fait, il n'y a plus cette perméabilité entre l'instruction en famille et l'école. Il y a plus cette liberté de pouvoir essayer, de pouvoir en ressortir à un moment où ça ne nous convient plus. Et c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour des familles qui ont peut-être toujours scolarisé leur enfant, mais qui, à un moment, vont se trouver dans une situation où l'enfant aura besoin de cette issue de secours, de ce pas de côté, même si c'est qu'un temps.
Ça a été le cas de ma fille Salma. Elle, elle a choisi d'aller à l'école. Elle va à l'école, je pense, plus pour le lien social que pour l'école elle-même.
Et puis parce qu'elle n'a connu que ça aussi.
Oui, puis parce qu'un temps, moi, j'ai... Enfin, voilà, Salma est plus âgée. Moi, j'étais pas dans ce cadre-là, l'IEF et tout. Mais elle en a bénéficié aussi à la hauteur d'une année. Et du coup, ce qu'on a pu lui diligenter comme commentaire la concernant en fin d'année sur ses bulletins et tout ça, avec des commentaires affligeants et aberrants, tous les poncifs, quoi, peut mieux faire, travaille pas à la maison, bavardage, et voilà, a beaucoup de lacunes, ne pourra pas faire une filière normale et tout ça. Et en fait, avec cette année d'IEF, où elle a pu se poser, elle est rentrée dans un lycée en première et elle a eu 15,5 de moyenne générale. Alors, c'est pas pour dire les notes, mais c'est juste que. Il y a comme quelque chose de flagrant qui s'est passé en elle avec cette libération, cette possibilité de pouvoir respirer, qui lui a permis aussi de se repositionner, de retrouver de l'enthousiasme. Et aujourd'hui, elle est en terminale, elle passe le bac et elle se pose la question de savoir si elle n'a pas envie de faire des études d'avocate. Ma fille, Salma. Alors qu'à un moment donné, comme disait Coluche, c'est plus les études qu'il a poursuivies qu'elle qui poursuivait les études. Voilà, donc être jugé comme étant des séparatistes et ne plus pouvoir utiliser sur le territoire national un mode de fonctionnement, une approche pédagogique qui fait ses preuves, c'est, voilà, c'est une colère. Moi, j'ai commencé par ça.
Nous, quand Marjorie et Ramin ont annoncé leur entrée en désobéissance, ça a résonné rapidement, en fait. Et du coup, on n'a pas rempli le dossier de l'autorisation de plein droit, on a tout de suite annoncé notre entrée en désobéissance civile. Et de toute façon, Romy, notre dernière, qui serait concernée à la rentrée prochaine, on aurait été obligé de rentrer dans ce jeu de demande d'autorisation dans lequel on ne voulait vraiment pas rentrer, on ne se retrouvait pas du tout là-dedans.
Alors depuis le choix de notre désobéissance civile en conscience, nous avons eu une première visite des gendarmes chez nous qui étaient venus pour repérer un peu les lieux, notre maison et tout ça, et un peu échanger avec nous. Ils sont venus nous prévenir qu'ils allaient nous envoyer une convocation pour une audition. Donc on a été auditionnés. Alors c'était intéressant parce que au départ, je dirais pas qu'on était impressionnés, mais on est sur un volet quand même pénal, correctionnel. Et les gendarmes qui se pointent à la maison, pour les enfants et nous-mêmes, ça reste toujours impressionnant. Mais on est tombé sur des gens qui, limite, le premier jour, quand ils sont venus nous visiter, qui auraient pu venir boire l'apéro, parce qu'ils étaient... mais pourquoi vous ne mettez pas vos enfants à l'école? Et ils n'étaient pas forcément au courant. Et ça les a fortement intéressés. Et ils étaient d'ailleurs critiques sur tout un ensemble de dysfonctionnements scolaires, de ce qu'eux-mêmes pouvaient vivre à la maison avec leurs enfants, qui étaient overbookés de devoirs, etc. Bref. Et donc, du coup, on a été, auditionnés. Par le gendarme, et ça s'est plutôt bien passé parce qu'à un moment donné, il a mis de côté son audition, il nous a plus posé des questions sur pourquoi. Moi, je suis pas encore d'enfant, j'ai 25 ans, je débute, ça m'intéresse bien. Et au final, il a même pas fait relever l'empreinte qui faisait partie un peu du final de la première audition. J'ai dit non, mais du coup, je pense que ça va être classé sans suite. Donc, il nous a quand même rappelé ultérieurement pour nous dire. Je dois continuer. Et il était gêné de prendre nos empreintes, il était pas bien, mais nous, on a cassé un peu le truc et on a rigolé avec lui en disant qu'on était heureux d'être là et que c'était chouette. Voilà. Non, mais c'est vrai.
C'était la suite logique, en tout cas,
logique,
de la posture.
On s'y attendait, quoi. Ouais. On le dit clairement qu'on était content d'être là, puisque c'est ça qu'on voulait, de pouvoir aller en procès, pouvoir expliciter auprès d'opinion publique cette aberration de cette loi.
Donc sur ce volet pénal, on a donc, suite à cette audition, été convoqué chez le délégué du procureur qui nous a proposé une composition pénale, c'est-à-dire qu'on s'expose normalement à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende du fait d'avoir refusé la mise en demeure de scolarisation. Et il nous a dit qu'au lieu de ça, il nous proposait un stage de responsabilité parentale qui était quand même payant à hauteur de 300 € par personne.
Et on a beaucoup rigolé.
Voilà, on n'a pas pu s'empêcher de rigoler parce que forcément dans la position dans laquelle on est, en acceptant ça, ça reviendrait à dire qu'on est effectivement des irresponsables. Ça nous paraissait logique pour nous de refuser et d'aller au procès, au co-correctionnel. Donc là, d'après notre avocat, ça sera sûrement sur 2024. Mais voilà, donc en tout cas sur le volet pénal, on attend notre convocation au correctionnel. Et parallèlement à ça, donc le procureur a aussi fait une information préoccupante, une enquête sociale. On a eu un premier rendez-vous avec une assistante sociale et une infirmière puéricultrice pour nos 3 enfants. Donc ça, c'est, je tiens quand même à signaler qu'on n'a que 2 enfants qui étaient concernés par ce refus de scolarisation, Soren et Ezra. Et pourtant, sur l'information préoccupante qu'on a reçue et notre convocation par les services sociaux, on avait bien Romy, notre petite dernière, qui avait alors 18 mois, qui était aussi concernée. Donc on a eu rendez-vous dans leurs locaux la première fois. Ils ont un peu posé plein de questions sur notre vie, généralement, hein, sur les accouchements, sur le suivi de santé, sur nos choix. En tout cas, nous, on a essayé d'expliquer nos choix. Le deuxième rendez-vous était à notre domicile, parce que bon, ça faisait partie de leur procédure de voir l'environnement des enfants. Le jour où elles sont venues, elles sont venues en après-midi, donc notre petite dernière était à la sieste. Ezra, le deuxième, était malade. Et du coup, elles ont pu parler un petit peu avec Soren, avec nous, mais elles ont conclu en disant bah, on n'a pas pu parler avec Romy et Ezra, donc on doit vous refixer un troisième rendez-vous.
Elles se sont présentées, si je peux me permettre. C'est important pour la suite des explications. Le premier rendez-vous, elles nous ont quand même dit qu'elles n'étaient absolument pas compétentes en matière d'instruction et qu'elles n'étaient pas là pour juger l'instruction et qu'elles n'interviendraient pas là-dessus. C'est leur mot.
Et du coup, on a eu un troisième rendez-vous à nouveau dans leurs locaux, qui ne s'est pas particulièrement bien passé. Déjà, elles se sont braquées au début parce qu'elles ont demandé à parler aux garçons sans nous. Les garçons n'ont pas accepté. On a senti que ça les agaçait quand même. Et puis, elles sont beaucoup revenues sur l'instruction, sur nos choix d'apprentissage autonome, sur leur inquiétude, si les enfants souhaitaient un jour retourner à l'école. Comme on leur a répondu, la réponse est dans votre question, parce qu'en fait, s'ils le souhaitent, ça veut dire que ce sera une envie de leur part, ça veut dire qu'il y aura de l'enthousiasme, il y aura du sens, et on n'a aucun souci sur le fait qu'ils feront ce qu'il faut pour pouvoir rejoindre un parcours scolaire. Elles nous ont dit aussi qu'elles avaient appelé l'inspecteur académique qui avait suivi les garçons. Cet inspecteur qui avait pourtant fait un contrôle positif 2 années de suite, mais qui leur a quand même dit a priori de leur dire que c'était faible. Et du coup, elles nous ont, voilà, nous ont dit que dans leur conclusion, elles se permettraient quand même de dire qu'elles sont inquiètes.
Sous forme de questionnement.
Sous forme de questionnement, mais qu'elles sont inquiètes pour l'instruction de nos enfants. Après nous avoir dit donc au premier rendez-vous qu'elles ne jugeraient pas de l'instruction, qu'elles n'étaient pas compétentes en la matière.
Et avec un contrôle positif de l'inspecteur quand même.
Moi, je questionne leur légitimité pour juger de l'instruction, en tout cas de nos enfants. Alors, les risques, j'en ai parlé tout à l'heure sur le volet pénal, donc on est toujours sur le risque de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Sur le volet civil, a priori s'ouvre pour nous, c'est pas confirmé. Pour l'instant, c'est la demande de l'assistante sociale, mais c'est pas encore confirmé.
Auprès de son supérieur.
Voilà, c'est pas confirmé ni par son supérieur ni par le magistrat, mais il se pourrait qu'on ait une mesure judiciaire d'investigation éducative. Donc une enquête sociale un peu plus poussée, qui peut durer 5 à 6 mois, et qui peut aboutir ou non à une mesure éducative.
Ça peut parler de placement, ça peut parler de prise en charge peut-être à la maison, ce qu'on appelle une AED, assistance éducative, à la maison. Moi qui suis du métier, je trouve que c'est aberrant, et puis j'en ai discuté avec quelques professionnels de la protection de l'enfance, qui trouve que cette décision-là de mettre en place une mesure d'investigation éducative est hors compétence de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'effectivement, Soren, comme d'autres enfants, y compris des enfants d'ailleurs qui sont en 6e et qui ne savent pas lire, sont peut-être hors normes parce qu'ils ne savent pas encore lire, mais qu'ils ne sont pas en danger. Alors que la MIGE est vraiment un instrument et un outil de la protection de l'enfance pour faire tout un ensemble de vérifications via des professionnels que sont les travailleurs sociaux, et puis des psychologues pour se rendre compte d'un enfant qui pourrait être en danger. Et en quoi le fait que l'instruction en famille, le homeschooling et un enfant qui n'a pas encore ce consentement d'avoir accès à la lecture est en danger. Donc on n'est pas forcément inquiet.
On est confiant sur l'issue.
Mais moi, il y a toujours ce versant un peu de colère des institutions et des personnes qui font du zèle. Je pense qu'il y a bien d'autres enfants et de familles à s'occuper que de la nôtre, quoi. Voilà. Après, je revendiquerai toujours que s'il y a un doute, y compris nous ou pour d'autres, on puisse être interrogé, etc., pour le bien-être de nos enfants, mais pas avec autant, je dirais, de violence. Parce que la question qui se pose aussi, et c'est des choses sur lesquelles on voudrait travailler aussi, c'est en quoi ces enquêtes sociales vont pas abîmer, impacter les enfants. Voilà, c'est-à-dire que c'est anxiogène pour eux et tout, et c'est notre plus grande inquiétude, c'est plutôt celle-là. On sacrifiera pas nos enfants, donc s'il faut quitter le pays, on quittera le pays, s'il faut faire autrement, on fera autrement. Mais pour autant, on ira jusqu'au bout, on est déterminé, on a des arguments, on est des citoyens, je pense même des très bons citoyens de ce pays.
Oui, c'est l'opportunité en plus d'expliquer à nos enfants ce que c'est que d'être citoyen, d'expliquer tout ce rapport à la loi, à la justice et à la justesse. Donc c'est aussi chouette d'apporter ça avec nos enfants et de partager ça positivement avec eux.
Et puis il y a une forme de fierté aussi, parce qu'avec toutes ces familles qui sont en désobéissance civile, moi je ressens une fierté d'homme à bouger, quoi.
Jérôme Delquier, père des Louanes et de Liam, 10 et 13 ans. Ça fait un an et demi que j'ai créé mon entreprise dans laquelle j'ai mis tout ce que je savais faire. Donc c'est homme toute main, entretien d'espaces verts, fabrication d'objets en bois, décoratifs ou d'ameublement, vente des excédents du jardin et vannerie. Et alors Liam n'est jamais allé à l'école, donc le plus jeune, et Louane, il est allé à la petite section de maternelle et à la moyenne section. Et c'est lui qui a demandé à sortir de l'école. Et nous étions prêts déjà à écouter ses choix.
Je m'appelle Sarah Picard-Delquier, je suis la maman des Louane et de Liam. Donc oui, ce choix de l'instruction en famille est arrivé juste après la naissance d'Eloane. Déjà, cette possibilité est arrivée dans notre esprit juste après. On a appris que l'école n'était pas obligatoire en France, mais que c'était l'instruction. Alors que moi, toute mon enfance, j'ai vraiment cru que l'école était obligatoire. Et Eloane nous a posé face à ce fait que, en fait, il avait plus de temps pour expérimenter, pour rêver, pour construire, pour vivre ce qu'il avait envie de vivre. Et ensuite, on a passé le cap avec Eloane d'expérimenter l'instruction en famille. Au départ, c'était pour un an, et chaque année, c'était renouvelable. Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on fait l'instruction en famille, et donc Liam, notre second, n'a jamais été scolarisé. Lui n'a jamais demandé à aller à l'école, parce que si la demande s'était proposée, il aurait expérimenté l'école, mais il n'en a jamais eu besoin. Voilà.
Donc nous, on fonctionne en apprentissage libre. Donc c'est en fonction de leurs demandes et de leurs besoins qu'on va explorer un domaine ou un autre. S'il a besoin de faire des calculs, viens me voir, et papa, combien ça fait, et comment on calcule ça, et comment on fait ça.
J'ai même un exemple concret, là. Leur tati leur a offert un cochon d'Inde. Ils ont décidé de construire une petite maison pour ce cochon d'Inde. Donc ils ont commencé par faire des plans. Alors d'abord, il y a déjà eu un premier projet, où ils n'ont pas voulu notre aide, qui n'a pas été concluant, la maison s'écroulait sur le cochon d'Inde. Ensuite, on leur a proposé de passer par un dessin avec des mesures, sans le faire à leur place, vraiment juste en leur proposant. Donc Eloane a dessiné avec une règle, avec des mesures bien précises, toute sa cabane. Il y avait un toit, il y avait des triangles, il y avait des rectangles, il fallait calculer les mesures et le volume. En fait, chaque petite situation de notre vie est remplie d'apprentissage qu'on pourrait proposer à l'école, sauf que c'est concret, ça a du sens pour eux.
Après, moi, je réponds essentiellement à leurs questions. Et quand on parle d'expressions ou de vieilles expressions, le 14 juillet, qu'est-ce que c'est? La Révolution, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi on lui a coupé la tête au roi? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, on fait de l'histoire. Et si je sais pas, je vais chercher, on cherche ensemble. Quand on a un livre sur le sujet, j'ouvre le livre. Et si on n'a pas de livre, ben, y a Internet. C'est assez pratique. Hein. Mais en général, on trouve toujours la réponse. Hein. On trouve tout quelqu'un qui a la réponse.
Et nos enfants aussi trouvent des gens qui ont les réponses. Il y a 2 ans, dans notre village, des voisins anglais sont venus s'installer dans le village. Et Loane et Liam, qui ont accès à Internet et aux jeux vidéo, sont très intéressés par l'anglais, parce que sur tous ces forums où ils échangent avec leurs copains, il y a beaucoup de copains qui parlent anglais. Et donc, ils ont été voir nos voisins, et dans la semaine qui suivait, les voisins leur proposaient le mardi et le vendredi de cours d'anglais. Ces cours d'anglais ont d'abord été proposés de manière formelle, parce que notre voisine ne connaissait que ça et elle avait vraiment à cœur de leur transmettre l'anglais. Et petit à petit, au cours des mois qui se sont écoulés, elle a bien vu que le côté formel ne fonctionnait pas avec Eloane et Liam. Mais par contre, dès qu'on passait par le jeu, dès qu'on passait par du sens, c'est-à-dire qu'elle fait de la cuisine aujourd'hui avec les enfants, elle va jouer à se déguiser pour apprendre les noms des vêtements. Ça a commencé par plein de petites choses comme ça. Et en fait, juste d'être immergée 2 matinées par semaine avec un couple d'anglais qui parle anglais, ils absorbent, c'est vraiment ça, ils absorbent leur environnement. Et ils ont eux-mêmes été trouvés dans leur environnement ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Et c'est fantastique.
Alors à l'école, moi, au début, j'étais heureux. Tant que mes goûts correspondait à ce qui m'était donné à apprendre. Il n'y a eu aucun problème jusqu'à un 6e, 5e, même 4e. À part le côté hormonal, on va dire, rapport fille-garçon un peu compliqué à cet âge-là, mais sinon, au niveau scolaire, j'avais aucun problème. Et après, ensuite, j'avais d'autres priorités. J'étais plus intéressé par faire du sport, faire de la musique, les cours de maths, de français, d'histoire. Ça a commencé à devenir compliqué. Quand en 3e, on m'a demandé de lire Germinal, j'étais bien content que le film soit sorti. Ça m'a évité de le lire et de toute façon, je ne l'aurais pas lu. Les livres imposés, ça n'a jamais été possible. Et après, plus ça allait, plus l'enfermement à l'école était plus fort que les connaissances qui pouvaient m'intéresser, à part un prof par-ci, un prof par-là, mais sinon, il n'y avait rien.
Pour ma part, j'ai pas été du tout heureuse à l'école. Ça a été 13 années de ma vie qui ont été très dures à vivre. Ça a commencé assez tôt, à partir du CP, où les apprentissages concrets sont rentrés, parce qu'avant la maternelle, évidemment, c'était que du jeu, et j'avais plaisir à l'école, à la maternelle, c'était pas un souci, rencontrer plein d'enfants. Par contre, à partir du CP, les apprentissages ont commencé à être imposés, les apprentissages de la lecture, les apprentissages de l'écriture. Tout était une violence. Et les instituteurs, peut-être, avaient à cœur de m'aider, mais me faisaient rester plus tard parce que j'avais des difficultés. Donc non seulement j'avais la peine de ma journée d'école qui était déjà extrêmement difficile et que je ne comprenais pas le sens de ce qu'il fallait que j'absorbe, mais en plus la peine était plus longue pour moi parce que j'avais des difficultés et qu'il fallait que je reste plus longtemps. Et ces difficultés ont perduré par manque de sens. En fait, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et ça a fait que s'accentuer avec les années pour arriver au collège, où pour moi, chaque jour, j'allais en prison. Et je mettais ce mot dessus déjà, j'avais conscience que j'allais chaque jour en prison. C'était la même chose. Je ne comprenais pas ce que j'y faisais. Oui, certes, j'avais des amis, j'ai jamais eu de soucis de comportement ou même de remarques de professeurs. J'ai eu des professeurs super, je peux le dire. Je me suis entendue avec plein d'instituteurs, mais ça ne changeait pas le fait que j'étais en peine quotidiennement des apprentissages et des notes, des sanctions quotidiennes qui arrivaient avec des notes qui n'étaient pas à la hauteur. Et peu importe le temps que je mettais, parce que c'était jusqu'à 2-3 heures chaque soir après l'école de devoir, qui était la punition ultime pour moi, je mettais vraiment de l'énergie parce que je voulais répondre en tant qu'enfant à ce qu'on me demandait. J'avais besoin d'être aimée pour mes notes. Enfin, je voyais bien qu'en fait, les autres enfants qui avaient des notes meilleures que les miennes était plus appréciée par les professeurs. Dès que j'en ai eu l'occasion, je suis sortie. C'était à 15 ans, parce qu'à cette époque-là, tout le monde pensait que l'école était obligatoire. Et donc, je suis sortie du système à 15 ans pour entrer dans un apprentissage de tapissier décorateur, tapissier d'ameublement. Et c'est un métier que je pratique encore aujourd'hui et que je pratique avec passion. Aujourd'hui, avec le recul, et parce que j'ai, en tant qu'adulte, analysé ce qui s'est passé pour moi pendant ma scolarité et pourquoi toutes ces difficultés, je peux même dire que même si j'accuse pas les professeurs, bien sûr, j'ai plein d'amis professeurs qui essayent de mettre de l'énergie, d'aider, de bien faire. Mais l'école m'a empêchée d'apprendre. J'ose le dire aujourd'hui. Particulièrement la lecture. Si j'étais restée juste avec ce qu'on m'avait proposé à l'école, aujourd'hui je serais analphabète. C'est parce qu'il y avait dans mon entourage des gens qui lisaient, surtout ma famille, mon père qui lisait beaucoup, et qui m'ont transmis cet amour des livres et de la lecture, qu'une fois sortie du système scolaire, parce que tant que j'ai été dedans, je refusais vraiment ce qu'on me proposait à lire parce que c'était pas ce que je voulais lire. Juste, c'était pas mûr, en fait. C'était pas le moment pour moi. On a commencé l'instruction famille et Louane, donc notre aîné, avait 7 ans. À ce moment-là, se passe le premier contrôle de l'éducation nationale. On sait qu'il y a un rapport qui est tapé. 3 semaines après ce premier contrôle des Louane, on reçoit un avis négatif qui nous demande un second contrôle, mais sans avoir de rapport. Donc, à cette période-là, les pédagogies sont libres.
La liberté pédagogique donc, était garantie par la loi. Donc, chaque parent faisait l'instruction à ses enfants comme il voulait. Et la seule obligation, c'était d'obtenir les compétences requises à 16 ans.
Et ce qui était contrôlé, c'était l'évolution d'une année sur l'autre. Donc, il nous fallait ce rapport pour qu'il y ait une base, la première base, pour pouvoir contrôler les années suivantes. Pas de rapport, pas possibilité d'évolution et d'amélioration pour nous. On ne sait pas quel est le point de départ, donc pas de contrôle en fait. Donc on commence à non pas refuser les contrôles, mais les ajourner. Les reporter à une date ultérieure où on obtiendra ce rapport pour pouvoir améliorer en fait la situation. Et ça, en fait, ça dure 7 ans. C'est un jeu de ping-pong chaque année avec l'éducation nationale où on se renvoie des courriers, où ils nous demandent un contrôle et on leur dit que tant qu'on n'a pas ce rapport, ben, il n'y a pas possibilité de contrôle puisqu'on ne peut pas évoluer et ça s'arrête là et l'année d'après ça recommence et ainsi de suite. Donc suite à ces 7 années de ping-pong arrive un changement de loi radical où on passe à un système d'autorisation où il faut un contrôle pour avoir cette autorisation.
Un contrôle positif.
Un contrôle positif. On n'a pas ce contrôle positif. Et donc, on sait que l'autorisation nous sera refusée d'office.
Et finalement, la loi arrive, et donc là, les inquiétudes sont un peu plus précises. Et là, on tombe sur la vidéo de Ramine et de Marjorie qui déclarent qu'ils ne demanderont pas l'autorisation.
Et ça a été une évidence. Il n'y avait aucun dialogue avec l'éducation nationale. C'était compliqué. On a demandé plusieurs fois des rendez-vous pour dialoguer avec eux et nous n'avions aucune réponse. On a envoyé au cours de ces 7 années un nombre incalculable de courriers. Nous n'avons jamais reçu de réponse à nos questions.
Des menaces ?
Des menaces.
Des injonctions ?
Des menaces, des injonctions. Un dialogue impossible avec une institution, quelle logique de mettre nos enfants, enfin, d'imposer à nos enfants, parce qu'il y a vraiment, c'est important pour nous de dire qu'il y a un choix, ils sont en accord avec ça. C'est pas nous qui leur imposons l'instruction en famille. Tous leurs cousins sont scolarisés, les voisins sont scolarisés, enfin, ils pratiquent l'escrime. À l'escrime, tous les copains sont scolarisés. Ils échangent avec des enfants scolarisés. Mais pourtant, ils n'ont pas envie d'aller expérimenter ça. Et c'est OK. pourquoi on les forcerait à aller quotidiennement à l'école?
Ouais. Et puis, c'est un rapport avec nos valeurs aussi. Cette loi, on la voyait comme une injustice profonde et c'était pas possible. Ça remettait en cause toute notre vie, toute notre organisation, sachant que nous n'aurions jamais l'autorisation, vu que nous n'avions jamais eu de contrôle positif. On était comme si la loi était faite pour nous coincer, finalement. Nous en avons parlé avec Éloane et Liam, qui, eux, du moment qu'ils restent en instruction en famille, je pense qu'ils étaient...
En sachant que c'est une évidence, ce choix de la désobéissance civile, mais on est des pionniers dans cette démarche. C'est un inconnu qui nous attend. Voilà. Actuellement, on est sous le coup d'une information préoccupante. Donc, nous avons deux éducatrices qui sont chargées pendant les deux prochains mois, mais ça a déjà commencé depuis un mois, on est vraiment en plein dedans, de mener une enquête sur notre famille. En face de nous, on a eu deux personnes complètement différentes. Et c'est quelque chose de chouette, parce qu'on rentre dans l'humain, vraiment dans la relation humaine, on n'a pas des ordinateurs en face de nous, et c'est aussi ça qui nous intéresse. Une éducatrice qui a très bien compris notre posture, notre position, et une autre qui était un petit peu plus dans l'administratif, du coup qui insistait un petit peu plus sur des points de connaissance et de niveau scolaire.
Voilà. Et en même temps, moi, il y a quelque chose qui me chiffonne parce que ça fait 7 ans. Pas 7 ans, mais disons que ça fait plusieurs années qu'ils auraient dû déclencher une information préoccupante, sachant qu'il n'y avait jamais eu de contrôle, qu'ils étaient censés venir voir chez nous ce qui se passait. Et à partir du moment où on leur dit que nous menons une action politique et que nous ne voulons plus les voir, ils déclenchent cette information préoccupante. Et ils nous envoient les services sociaux. Donc, c'est ça qu'on fait l'impression d'être un opposant politique, à qui on envoie d'abord les services sociaux, ensuite sûrement la gendarmerie, et puis passer devant un juge, un tribunal.
Lors du rendez-vous, les éducatrices ont posé la question aux enfants, c'est la question de savoir comment ils vivaient cette démarche de désobéissance civile. Liam, il a dit « Moi, je m'en fiche. Ça m'impacte pas. » Et Louane, qui est un peu plus grand, qui a 13 ans, s'est exprimé sur le fait qu'il était conscient de ce qui se passait et qu'on en parlait avec lui.
Et que s'il fallait, pour sauver ses parents, il était prêt à aller à l'école.
Oui, c'est ce qu'il a dit aux éducatrices.
Alors qu'il ne veut pas, évidemment. Mais donc il comprend l'enjeu et les possibles sanctions, mais... La question, c'est oui. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Eh bien.
Et jusqu'où irons-nous?
Ça dépend des jours.
En fait, on n'en sait rien. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas où c'est le plus loin possible, mais je veux pouvoir me regarder dans le miroir et me dire j'ai fait mon maximum. J'ai été au plus loin d'où je pouvais aller. Et je ne sais pas jusqu'où ça peut s'arrêter. Peut-être que j'irai en prison, peut-être, même si j'en doute. Mais ça serait avec force que j'irai.
Ouais. Et en même temps, si nous avons juste une amende, donc ruiner des parents pour le bien de leurs enfants, ça fait louche. L'intérêt supérieur de l'enfant, là, on ne sait pas trop où il passe, du coup.
Si nous avions une amende, nous refuserions de la payer. Maintenant, c'est pareil, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et le financier va être un frein pour nous. Parce que il est clair que nous n'avons pas les finances pour aller très loin.
Ni pour aller chercher le meilleur avocat.
Voilà.
Ni pour payer des amendes, juste finalement pour... Ce qui reviendrait à acheter le droit de faire l'instruction en famille. Mais pour tout ça, pour l'année prochaine, récidiver. Donc, ouais, le financier, c'est un frein. Nos revenus sont très variables. Donc, quand le carnet de commandes est plein et que nous avons la possibilité de travailler, il n'y a aucun problème. Mais au début de l'année, par exemple, Sarah a été malade. Donc, c'est elle qui ramène l'essentiel des revenus du foyer. Mais pas de travail, pas de chantier, pas d'argent.
Une des choses qui m'inquiète et que je trouve grave, c'est ces familles à qui on coupe la CAF. Nous, on a une famille de 2 enfants. La CAF, on en a très peu. Mais pour des grandes familles, c'est sûr que c'est un levier qu'a l'État de couper la CAF pour faire obéir. Et c'est une violence. Pour moi, l'entrée en désobéissance civile, même si c'était une évidence, elle m'a confrontée à des tas de peurs que j'étais obligée d'aller détricoter une à une. Du coup, j'en ressors plus forte. Même si c'est que le début, je me sens encore plus forte qu'il y a un an quand je suis rentrée en désobéissance civile. Le fait d'avoir été voir en face ces peurs et de les avoir fait exploser, en fait. C'est aussi quelque chose que je veux montrer à mes enfants. Que c'est possible de ne pas être d'accord et de dire non, même quand il y a une autorité en face. Et de m'élever et de dire « je suis pas d'accord avec ce qui se passe ». Peu importe les risques, en gardant ce fil de mes valeurs.
Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïnsa.